Conte de Noël. Quatrième étage, troisième porte à gauche. C'est là que je perche, dans une grande maison banale, habitée par 9 ménages, riches au total de 37 enfants, et par 4 célibataires, dont je suis l'un, locataire des mansardes. Ma chambre est grande, froide, ornée d'un papier bleu que sillonnent des éclairs jaunes, et meublée principalement d'un courant d'air qui, lorsque la bise souffle, serpente de la fenêtre à la porte et de la porte à la fenêtre, sans que je parvienne à découvrir la fente qui lui livre passage. Or, la bise soufflait ce soir-là, précisément. Ses rafales sifflantes venaient se briser aux angles du toit avec des « ah » et des « ouh » qui signifiaient « Y a-t-il quelqu'un au logis ? Qu'on nous laisse entrer !» Et sans plus de cérémonie, elles entraient. Je les sentais glisser sur ma nuque, courir à la porte, puis revenir folâtrer autour de mes jambes, sous la table. Brrr ! Je me levai pour fermer les rideaux et je vis une grande lumière briller au troisième étage de la maison d'en face. « Bon, il ne manquait plus que ça !» fis-je avec humeur. Cette clarté était celle d'un sapin de Noël et les sapins de Noël me rendent mélancolique. La moitié des fenêtres de mon quartier resplendissaient derrière leurs rideaux blancs et c'était pour éviter de voir cette illumination que je restais enfermé chez moi dans la seule compagnie de mon fidèle courant d'air. Mais pourquoi les arbres de Noël me rendent-ils mélancolique? Pourquoi, à leur vue, mon cœur s'amollit-il comme la cire de leurs bougies? Pourquoi me remplissent-ils les yeux d'absurdes larmes? Je ne suis ni plus ni moins célibataire la veille de Noël qu'à la Saint-Médard ou à la Trinité. Non, mais je le sens davantage. Chaque année, le 24 décembre, entre 6 et 10 heures du soir, j'ai un mauvais moment, un manque, comme l'exprimait ma pauvre mère, c'est-à-dire un vide. À travers mes vitres, je voyais distinctement ce qui se passait dans la maison d'en face, au troisième. Une jeune femme allumait la dernière bougie, tout au sommet de l'arbre, en se haussant sur la pointe des pieds. Puis une porte s'ouvrit au fond de la chambre, le père entra, portant 2 bébés, un sur chaque bras, et les rideaux se fermèrent brusquement d'un coup sec. Il me sembla qu'on me mettait à la porte. Je revins à ma table. La flamme de ma lampe filait, une âcre odeur de fumée de pétrole remplissait ma chambre. Une idée me vint. Si j'écrivais mon testament, cela me distrairait. Écrire son testament la veille de Noël dans une mansarde froide et morne, tandis que le monde ambiant resplendit de lumière, retentit de gaieté et de chant, il y avait là une sorte d'ironie exaspérée qui plaisait à ma misanthropie. J'allumai ma pipe et je m'assis devant mon buvard, la plume toute droite dans l'encrier. Je pensais à ma pauvre mère, à Élise, à ce qui aurait pu être, je revoyais les dures et joyeuses années de mon apprentissage. Nous étions malheureux, c'était là le bon temps, comme dit un poète. Ah, le soleil de ma jeunesse! Que tout était sombre maintenant! En effet, ma chambre s'obscurcissait de plus en plus. À travers les nuages de ma pipe, je tournai les yeux vers ma lampe et je vis que la flamme s'en allait décrescendo, décrescendo, tandis que l'exécrable odeur de pétrole augmentait à chaque instant. Je me levai précipitamment, je courus à l'armoire. Le bidon à pétrole était vide et de mon dernier paquet de bougies, il ne restait que l'enveloppe de carton. En 7 minutes, la lampe acheva de s'éteindre et je me trouvai dans une obscurité rendue plus noire par le vague reflet des clartés d'en face. L'âme ulcérée mais stoïque, je cherchais à tâtons mon chapeau, mon manteau, mon porte-monnaie, le bidon, puis la porte et je sortis. Le corridor était encore plus noir que ma chambre. À peine avais-je fait 5 pas que je m'embarrassai les pieds dans un objet dont rien ne m'avait indiqué la présence et je tombai lourdement. C'en était trop. Une exclamation d'un genre violent m'échappa, accompagnant le bruit du bidon sonore qui s'en allait, rebondissant de marche en marche, dans l'escalier. Je me relevai quand une porte s'ouvrit vivement et ma voisine tout effarée parut sur le seuil dans une grande lueur qui m'éblouit. J'étais furieux. Heureusement, elle ne me donna pas le temps de le lui laisser voir. « Qu'est-ce que c'est ? Vous êtes-vous fait mal ? » s'écria-t-elle. C'est ma faute, je n'aurais pas dû laisser là ce rouleau de vieux tapis. Je vous fais mille excuses. Le corridor devrait être éclairé, c'est la semaine de Madame Perret. Elle fait exprès d'oublier. Vous n'avez rien de démis, comment vous sentez-vous ? La porte de ma voisine, restée toute grande ouverte, me laissait apercevoir une chambre ressemblant à la mienne, comme une gentille sœur modeste et de bonne tenue ressemble à un vaurien de frère qui a mal tourné. J'eus le temps de distinguer les rideaux rouges, le canapé à fleurs, l'étagère, le sapin illuminé posé sur une petite table, et l'impression de chaud confort qui se dégageait de tout cela. « Comment vous sentez-vous ? » répéta ma voisine. « Vous devriez boire une cuillerée de térébenthine, c'est excellent contre les coups intérieurs. Si vous entriez un moment, chez vous, pour vous remettre. » « Oh, hospitalité !» pensais-je. « Je me casse le cou dans les tapis de cette personne et elle m'invite obligeamment à entrer, chez moi, pour me remettre. »« Merci, » répondis-je froidement. « Je n'ai pas de lumière et je sortais pour acheter de quoi en faire. »« Je puis vous prêter une lampe, » s'écria-t-elle. « Je voudrais bien... » Elle s'interrompit, me regarda un instant, puis, semblant prendre son parti, « Entrez, » me dit-elle. J'entrai, elle ferma la porte et m'avança une chaise. Intrigué d'un certain air de mystère et d'embarras qui était je ne sais où, dans sa voix, dans ses mouvements, je regardais autour de moi. Plusieurs photographies, dans des cadres à support dressés en rond autour de l'arbre, attirèrent mes yeux. Ma bonne humeur revenait, tandis que mon hôtesse, ouvrant ses armoires, y cherchait un flacon de térébenthine que, par bonheur, elle ne trouva pas. Je lui assurai à plusieurs reprises que ma chute n'avait dérangé en moi aucun organe vital, puis je me levai, n'osant prolonger davantage ma visite. « Votre petit sapin attend du monde, sans doute, » dis-je à ma voisine. « Non, » répondit-elle, « je l'ai allumé pour moi seule et pour eux, » ajouta-t-elle en désignant les portraits. Je la regardai avec quelque étonnement, mais voyant que ses yeux devenaient humides, je détournai les miens. « Oui, je comprends, c'est votre famille, » fis-je à demi-voix. « Je n'en ai pas d'autre, » reprit-elle. « Et alors, peut-être que vous ne comprendrez pas cela. La veille de Noël est triste à passer quand on est toute seule. Je leur fais une petite fête, à eux et à moi, et j'essaie de me figurer que nous sommes ensemble. » Tout en parlant, elle me regardait d'un air d'anxiété, comme si elle eût craint d'être mal comprise ou raillée pour cette fantaisie touchante. Mais son émotion, quoique timide et contenue, me gagnait si fort que je n'osais ouvrir la bouche. Ce n'était plus de l'amertume comme tout à l'heure, c'était de la pitié, de l'attendrissement sur elle, sur moi, sur tous les isolés. Je l'avais rencontrée 100 fois, ma voisine. Chaque samedi, elle époussetait ses meubles sur le palier et je la tenais pour une vieille fille méticuleuse et casanière. Je lui donnais de 36 à 38 ans. Elle était blonde, petite et n'avait plus de fraîcheur. Sa physionomie n'était pas gaie, mais plutôt douce et soucieuse. Je connaissais son nom grâce au petit carré de carton cloué à sa porte sur lequel on lisait « E. Dessaule, règleuse ». Émue, embarrassée, trouvant le moment mal choisi pour sortir comme pour rester, je regardais machinalement les portraits sur lesquels tombait en plein la lumière des bougies. « Voici mon père, » me dit Mademoiselle Dessaule en me désignant l'un d'eux. « Et voici ma mère qui est morte il y a 4 ans. Celui-ci, c'est mon frère. Il est établi en Amérique ainsi que ma sœur qui s'y est mariée. Regardez mon petit-neveu. « N'est-ce pas un amour d'enfant ?» Je me demandais pourquoi elle ne s'était pas mariée aussi, car elle était fort gentille, avec sa robe grise et ses cheveux relevés sur sa tête, par un petit peigne d'écailles à jour. Active et soigneuse, elle devait l'être, c'était écrit sur les murs même de sa chambre. Mais cette question étant de celles que prohibent les convenances, je me contentais de demander à ma voisine si elle n'avait pas de parents dans notre village. « Seulement des cousins éloignés, » répondit-elle avec un petit haussement d'épaules. « C'est comme moi, » dis-je en faisant involontairement le même geste. Ce mot de cousin me remit en mémoire mon testament. Bien que ma disposition d'esprit eût passé du noir au gris tendre, il fallait achever l'œuvre funéraire. « Allons, je m'en vais, » dis-je avec quelque effort en me dirigeant vers la porte. « Il fait bon chez vous, ma voisine. » Je crus qu'elle allait parler, mais elle se ravisa. « Et vous n'avez pas de courant d'air, » repris-je. « La bise entre chez moi comme au moulin. » « Oui, tout est bien calfeutré, » répondit-elle. « Si vous voulez, je vous donnerai des lisières de drap pour boucher les fentes de votre fenêtre. » « Merci, » répondis-je sans grand enthousiasme, en mettant la main sur la serrure. « Prêtez-moi une bougie, je vous prie, j'ai à écrire. » J'étais occupé à faire mon testament quand ma lampe s'est éteinte. Je comptais sur un effet, j'ai honte de le dire. Je voulais que Mademoiselle Dessaulles s'intéressât à ma situation désolée. « Votre testament ? » s'écria-t-elle. « Non, on n'écrit pas son testament un soir comme celui-ci. » « Vous avez donc des idées noires ?» J'inclinai affirmativement la tête. « Tenez, restez avec moi, » reprit-elle très vite. « Je ne suis pas trop gaie non plus. En y regardant de près, ce n'est peut-être pas tout à fait convenable, mais j'ai 37 ans et vous... »« 40. Vous êtes bonne comme un ange et les anges n'ont pas d'âge. J'accepte. Je vous l'aurais même demandé. » « Mais me permettez-vous d'aller chercher le portrait de ma mère pour que nous soyons tout à fait en famille ?» Elle sourit avec un petit mouvement de tête qui disait oui. Je me précipitai dehors, je descendis l'escalier 4 à 4, je courus au coin de la rue où se trouvait le rôtisseur de châtaigne et je remplis mes poches de marrons tout chauds. Puis je regrimpai mes 4 étages un peu essoufflé. À la lumière d'une pincée d'allumette, je pris le cher portrait sur ma table et je rentrai chez ma voisine. Ah, la bonne soirée que nous eûmes à nous deux, tandis que les bougies brûlaient en dégageant une légère odeur aromatique et que les coques luisantes des marrons s'empilaient dans nos corbillons. J'avais apporté une bouteille de vieux Neuchâtel que je gardais depuis longtemps dans un coin de mon armoire. Quel plaisir d'en verser un doigt à ma voisine pour boire à sa santé, puis un autre doigt pour la prospérité des siens, puis un troisième à la dispersion de mes idées noires. Nous causions, elle gentiment, doucement, avec un drôle de petit sourire qui semblait n'avoir pas l'habitude de s'épanouir entièrement, moi avec un abandon facile qui m'étonnait. Je lui parlai de ma mère, elle me raconta son enfance, son apprentissage. Nous discutâmes les causes de la crise horlogère. Durant tout ce temps, j'étais hanté par le désir de découvrir le prénom de Mademoiselle E. Dessaulles, règleuse. Était-ce Émilie, Estelle, Éléonore, Esther, Eugénie ? Comment vous appelez-vous ? Lui demandai-je enfin, ce qui était assurément le meilleur moyen d'obtenir un renseignement précis. Je m'appelle Élise. Élise. Ce fut un coup. Je me serais attendu à tout, à Eucharis, à Héliante, à Esmeralda, plutôt qu'à Élise. « Vous n'aimez pas ce nom ? » fit-elle, étonnée de mon silence. « Je l'aimais beaucoup, autrefois. » Ce fut à son tour de se taire. Elle regardait ses portraits comme pour leur demander une inspiration. Les yeux de ma mère semblaient la suivre. Je me levai, je lui demandai pardon de mon émotion subite, dont je lui expliquerai la cause si elle me donnait un quart d'heure pour m'en remettre. Prenant une bougie à l'arbre, je regagnai ma chambre et pendant un quart d'heure, j'écrivis fiévreusement. Ce n'était pas mon testament, mais c'était pourtant l'expression de mes dernières volontés, car je communiquais à Mademoiselle Élise Dessaulles mon ardent désir de mettre ma destinée entre ses mains. Je lui racontais en quelques mots l'histoire de ma première Élise qui m'avait trahi, me laissant solitaire et désolée, défiant de toutes les femmes. Je lui disais ma vie morne, ma chambre froide et sans confort. J'avais envie de mentionner aussi mon courant d'air, mais je me souvins que j'y avais déjà fait allusion. Je concluais mon épître en priant Mademoiselle Élise de réfléchir à ma requête pendant une demi-heure, puis, si elle l'agréait, de frapper 3 petits coups à la paroi. J'allai ensuite glisser ma lettre sous sa porte et j'attendis. Oh, mortel, 30 minutes! Toc, toc, toc. Bonsoir, gens sympathiques qui m'avez écouté. Je vous souhaite un joyeux Noël.